Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous.
La DGCCRF, la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, a publié son bilan 2017 sur l'agriculture bio. Sur 1624 opérateurs contrôlés, le taux d'anomalie atteint 28%, près des deux tiers des manquements concernant le non-respect de la réglementation relative à l'agriculture biologique. C'est pourquoi, seul contre tous, jusqu'à 20h, je l'affirme, le bio, c'est bidon. Oui, c'est bidon s'il n'y aurait pas un près d'un tiers d'anomalies sur les contrôles. Car dans le bio, il y a tout et n'importe quoi, en particulier sur le bio importé, qui remplit les rayons des grands distributeurs et autres hard discounters. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, le bio, c'est bidon. Car qu'est-ce qu'un produit bio ? C'est un produit issu de l'agriculture biologique certifié par le label vert AB. Alors le mode de production exclut l'usage de pesticides et d'OGM, ainsi que l'emploi d'engrais chimiques. Un aliment bio ne doit contenir ni exhausteur de goût, colorant, arôme chimique ou de synthèse. Certains additifs sont autorisés, mais leur utilisation est très limitée et contrôlée. Petit problème, le bio est d'abord une obligation de moyens et pas de résultats. Le label certifie que le producteur a tout mis en œuvre pour respecter le cahier des charges, mais il ne garantit pas que le produit est dénué de pesticides. C'est pourquoi, je le répète, le bio, c'est bidon. Et évidemment, le raccourci est largement utilisé par le lobby de l'agriculture biologique et les distributeurs qui en profitent pour augmenter les prix au nom du bio, du sain, du qualitatif, alors que le produit est parfois moins bio qu'un produit issu de l'agriculture conventionnelle. Car en plus d'être bidon, le bio, c'est pour les riches. Les bobos l'adorent, on pourrait même l'appeler le bio-bio. C'est pourquoi, seul contre tous, je l'affirme, le bio, c'est bidon.
Et on vous attend évidemment sur les réseaux sociaux. Pardon Philippe David, je m'empressais d'aller sur les réseaux sociaux, c'est pour ça.
Ah oui, allez-y.
Le bio c'est bidon, c'est ce que vous affirmez donc ce soir. Eh bien pour le moment, 60% de nos auditeurs sont d'accord avec vous. Alors essayez d'inverser la tendance, pourquoi pas vous qui êtes favorable au bio ou alors le contraire, d'accord, pas d'accord sur le compte Twitter de Sud Radio. Et évidemment, on vous attend au 0826-300-300 pour venir débattre avec Philippe David en direct du Salon de l'Agriculture et tous nos invités autour de la table.
Et avec nous, les débatteurs sont tous bio. On va faire droit par ordre, non pas alphabétique. Oda à la fin, oui, mais galanterie oblige. On va commencer avec Nadia Vidal, productrice de châtaigne bio au Collet de Dèze, c'est dans le département de la Lozère. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bienvenue sur Sud Radio. Jérôme Bissière, producteur de pruneaux, noix et noisettes à Agmé, c'est dans Lot-et-Garonne. C'est de l'agriculture raisonnée qui va passer agriculture HVE, haute valeur environnementale, pardon, on va en parler après, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bienvenue sur Sud Radio, Michel Strebler, responsable des semences bio au GNIS, le groupement national interprofessionnel des semences, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio, bien près du micro. Et évidemment, comme tous les mercredis, Robert Laffont, patron du groupe Laffont Presse Entreprendre, bonsoir.
Ok, bonsoir, un groupe de presse complètement bio. Hein.
Absolument. Alors, on va commencer, galanterie oblige, avec Nadia Vidal, qui en tant que productrice bio de châtaigne, va pas être du tout d'accord avec moi quand j'affirme que le bio, c'est bidon.
T'as pas présenté...
Si, mais j'ai présenté Xavier de Namur, je t'ai pas présenté.
Non.
Toutes mes excuses, Xavier de Namur, oui. Restaurateur.
Je voyais qu'il
fait...
un petit rictus.
Non, mais c'est pas grave, Philippe, je vois juste
non,
que tu reprends...
Mais aujourd'hui,
tu reprends, ouais, j'étais là tout à l'heure avec
j'étais
Brune Poirson,
tout à l'heure, excuse-moi.
Avec la ministre, tout à fait. Donc j'étais là, mais je suis revenu, c'est pas grave, les auditeurs peuvent changer. Alors, juste, je suis très heureux que tu reprennes mon petit slogan, qu'on dit, moi je suis pas un bobo, je suis un bio-bio, du Lot-et-Garonne quand même, et je vais t'expliquer pourquoi le bio, c'est pas si bidon que ça.
Je fais mon mea culpa.
Il y a pas de problème.
Pardon.
On va commencer.
Avec Nadia Vidal. Nadia Vidal, vous n'êtes pas d'accord quand j'affirme que le bio, c'est bidon.
Non, pas du tout.
Bien dans le micro.
Pas du tout. Pas du tout, et je trouve que c'est dommageable justement pour nous qui sommes producteurs et qui travaillons donc dans le respect d'un cahier des charges qui n'est pas toujours évident et avec les contrôles qu'on a chaque année sur les exploitations.
Vous avez beaucoup de contrôles, vous, pour vos châtaignes bio ?
Oui, nous avons 2 contrôles par an. C'est un organisme certificateur.
Calicert. Hein.
Moi, je suis chez Bureau Veritas.
D'accord, un autre organisme.
C'est un autre organisme certificateur. Donc, le contrôleur vient donc au moment de la récolte. Il a contrôlé les produits. Bon, nous avons aussi un peu une chance parce que la châtaigne, elle est pratiquement bio sur notre territoire Cévenol. N'empêche que. Le fait de dire que le bio c'est bidon, c'est pas normal de dire ça.
Mais c'est pour vous donner la parole pour dire qu'il y a plusieurs bio, c'est et notamment le bio français qui lui est un vrai bio. On va continuer avec vous qui faites aussi du bio, Michel Strabler, responsable des semences bio au GNIS, le groupement national interprofessionnel des semences. Vous êtes d'accord avec moi ou pas quand je dis que le bio c'est bidon ? Bien non. Dans le micro, par contre.
On peut pas dire
mais le micro n'est pas bio, mais bien collé au micro.
D'accord. On ne peut pas dire que c'est bidon. Quand on voit la difficulté qu'il y a à faire du bio et la nature des contrôles qui sont derrière, c'est vrai qu'on ne peut pas le dire. Nous, au niveau des semences, on commence à arriver à faire des semences bio en quantité et en qualité, hein, puisque l'année dernière, on a augmenté de pratiquement 30% la production de semences bio pour alimenter les agriculteurs qui font du bio.
30% ?
30%, oui, oui.
Ah oui, c'est beaucoup.
Ah ben oui, parce que les choses démarrent.
Il fallait.
Et il fallait, parce qu'effectivement...
C'est quoi une semence bio ?
Ah ben, c'est une semence qui est produite dans les conditions de l'agriculture bio, mais en plus, elle doit germer, elle doit être indemne de mauvaises herbes et de maladies. Hein, donc c'est, et je dirais qu'à la limite, le producteur bio, il n'a plus que ça à mettre en terre. C'est la qualité de cette semence qui va faire la qualité de son produit.
De son produit. Mais pour, rassurez-moi, pour être résistante aux insectes, etc., elle ne peut pas être OGM pour être bio.
Ah non, c'est impossible, ça. Dans le cahier des charges.
Jamais
bio,
de la vie.
Dans le cahier des charges bio, c'est interdit, oui, tout à fait.
Et pour vous, Jérôme Bissière, vous ne faites pas du bio, vous faites de l'agriculture raisonnée et vous allez devenir HVE, on va en parler un peu plus tard. Vous êtes d'accord avec moi quand je dis que le bio c'est bidon ou pas ? Ou vous dites que c'est un autre mode de production que le mien ?
Moi je dis que c'est un autre mode de production que le mien. Je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Je défendrai plus le bio français que le bio étranger parce que nous, sur la particularité noisette, nous savons très
alors
bien.
Alors vous
que
faites du pruneau, de la noisette et de la noix.
Oui, alors je vais parler particulièrement de la noisette que je connais mieux sur ce thème-là. Et donc je voulais dire que. Il est impossible en France et je pense dans le monde entier de faire de la noisette bio parce que nous avons des ravageurs qui sont très importants, qui est le charançon de la noisette qui s'appelle le balanin. Où là, malheureusement, ça fait des pertes énormes sur les rendements qui pourront aller jusqu'à 80% de pertes. Donc nous avons des essais sur la coopérative sur des vergers bio où on sait très bien qu'il faut le même itinéraire technique qu'en conventionnel sauf qu'on produit 8 fois moins que, et ce n'est pas rentable.
Xavier de Namur, vous le restaurateur qui aime, alors que vous êtes aussi originaire du Lot-et-Garonne, comme notre ami Jérôme Bissière, pas tout à fait du même coin. Est-ce que vous, pour vous, comme je le dis, moi, le bio, c'est bidon ?
Alors, il y a plusieurs choses, si je peux te permettre de te répondre. Il y a le bio bidon, c'est-à-dire le bio qui est en bidon.
Ça, c'est ça.
Alors, celui-là, c'est pas un truc bio, mais
c'est donc,
on a beaucoup de produits aujourd'hui qui sont des produits transformés par l'industrie, donc qui est peut-être un peu moins sucré, un peu moins d'additifs, mais pour moi, effectivement, c'est ce que j'appelle qu'on voit dans les cantines, par exemple, quand les mecs ils disent c'est du bio, souvent c'est fabriqué par des industriels. Alors, c'est peut-être mieux ou pas mieux, moi je suis pas très favorable. Je trouve que le bio, ce qui est intéressant, c'est de l'acheter directement aux paysans. C'est le bio, c'est le bio de la saison, c'est le bio. Qui est cultivé dans des règles, une réglementation, un contrôle sur la qualité du produit et qui est de saison. Et c'est ça qui est intéressant dans le bio, c'est-à-dire que c'est gustativement et aussi avec les nutriments parce qu'il a été cultivé sans additifs, enfin sans produits chimiques, je veux dire sans phytosanitaires de synthèse. Et allez, la question intrinsèque derrière, c'est de savoir comment, vers quoi on va, vers une agriculture qui serait plus bio, puisqu'on a des grosses conversions. Rappelle-moi ton nom.
Michel Strebler.
Donc, effectivement, il y a une demande de semences bio. Après, moi, la question que je me pose, c'est que on a des semences anciennes, des semences qu'on appelle paysannes, qui sont pas au catalogue. Je pense que là, vous êtes au catalogue. Pourquoi il n'y a pas quelque chose qui permet à ces agriculteurs paysans de pouvoir revendre leurs semences eux-mêmes sans être au catalogue, alors qu'ils ont en semences bio, en semences paysannes et en semences souvent anciennes. Pourquoi ? C'est une question. Pourquoi ce bio-là, qui est un bio un petit peu, je dirais, un peu plus militant, n'est pas. Ils ont eu, je crois, le refus de pouvoir, Cocopelli, tout ça, je crois qu'ils n'ont pas pu vendre leurs semences qui sont des semences bio paysannes. Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Quel est le blocage ?
C'est bien, la question est posée par Xavier de Namur. Allez-y, Michel Strebler.
Je ne suis pas sûr que je répondrai directement à la question, parce qu'en fait, il y a plusieurs agricultures. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et on a, quand on parle de bio, je ne sais pas d'ailleurs si les semenciers que vous avez cités produisent véritablement du bio. Le contrôle du bio ne porte pas sur la variété. Il porte sur la façon dont sont fabriquées les semences. Donc elles respectent un cahier des charges bio qui dit qu'en dehors, il ne faut pas d'OGM, le reste est possible. Donc, excusez-moi.
Bien dans le micro.
Donc la problématique n'est pas celle-là. Hein. La problématique du bio, c'est de trouver des variétés qui sont capables de produire sans apport de minéraux de synthèse, sans phyto. Et ça, il faut que les variétés qu'on mette sur le marché apportent cette preuve. Et je dirais que les variétés anciennes, effectivement, elles peuvent être intéressantes pour des questions gustatives, pour des questions de couleur, de présentation.
Mais elle résiste surtout mieux. Si on regarde, si on vous regardez, vous allez au conservatoire d'Aquitaine, vous avez 50 ou 100 variétés de pommiers. Moi, j'en ai mis une trentaine chez moi. Alors, il y a des trucs qui sont problématiques, mais il y a des pommes. Vous avez besoin de rien mettre du tout et ça marche très bien. Alors, c'est des petites pommes, elles se vendent moins dans le commerce. Elles ne sont peut-être pas calibrées, mais ça marche. C'est des variétés anciennes qui sont adaptées à la terre, au terroir, vraiment.
Alors, je suis d'accord qu'il y a des variétés plus ou moins adaptées au bio. Encore faut-il en faire la preuve. Hein, donc là, vous avez manifestement la preuve. Je ne m'occupe pas du tout de pommiers. Hein, je suis plutôt grande
culture. Non, mais je parle de pommiers ou je pourrais parler d'autres, des fruits, des légumes, etc.
Donc c'est bien ça l'intérêt de la variété, c'est d'amener à la fois, et c'est l'enjeu aussi du secteur semences en termes de création variétale, à la fois des variétés qui ont du goût. On leur demande ça hein, aux semences. C'est un peu une gageure hein, quand même. On leur demande d'être productive, de résister aux maladies, de résister aux insectes, de faire du rendement, et puis d'être bon et d'être même agréable à voir. Hein. Moi, j'ai en tête le cas de la pomme de terre, par exemple, où on sait très bien.
On va en parler dans quelques instants.
Eh ben, je vous laisse.
Mon cher Philippe Rossi, est-ce que les auditeurs, les twittos, comme on dit aujourd'hui, sont d'accord avec moi lorsque j'affirme que le bio, c'est bidon ?
Eh oui, 60% de nos auditeurs qui sont toujours d'accord avec vous, Philippe David, et qui pour eux, effectivement, le bio, c'est du bidon. Vous pouvez inverser la tendance. On est encore là jusqu'à 20h, direct du Salon de l'Agriculture. D'accord, pas d'accord, sur le compte Twitter de Sud Radio. Et évidemment, vous connaissez le numéro 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix, Philippe David, seul contre tous.
Retour des vraies voix, seul contre tous, jusqu'à 20h depuis le Salon de l'Agriculture, Hall 1, stand C29, sur le stand de l'IRCALIM Occitanie. Vous pouvez nous faire coucou, il y a même quelques délicieuses victuailles sur la table, j'ai pas osé y toucher, notamment de magnifiques pruneaux, logique, on a deux intervenants qui viennent du Lot-et-Garonne. Robert Lafont, vous n'êtes pas encore exprimé, vous êtes sensible au bio.
Consommateurs aujourd'hui, ce que je voudrais féliciter d'abord cette émission parce que là enfin on a la parole non pas des apparatchiks de l'agriculture mais on a des vrais militants, c'est les producteurs bio.
Et ça s'appelle les vraies voix. Hein,
c'est les vraies voix, c'est parlons vrai, on est habitué. Non mais ce que je voudrais dire pour synthétiser un petit peu, c'est qu'en France le bio c'est quand même sérieux. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de fonctionnaires, vous le savez, qui font leur boulot, qui contrôlent. Ça c'est le premier point. Et on a probablement un bio de meilleure qualité en France, il faut le dire, que dans des pays voisins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est un peu un conseil que j'aurais donné à nos amis qui militent pour le bio, c'est l'avenir de l'agriculture française. C'est l'avenir de l'agriculture française, c'est la qualité, c'est aussi le bio, mais c'est aussi, il faut que nos amis agriculteurs s'organisent. Il faut qu'il y ait des filières bio qui soient identifiées. Il faut qu'ils investissent les magasins. Comme le disait notre ami Xavier de Namur, il faut qu'on trouve des produits locaux, dans les épiceries, quand on va dans les villages et dans les bourgades de France, il faut qu'on ait clairement en avant des produits du terroir local. Et ça, c'est pas assez valorisé. Il y a encore trop de produits qui sont pas de la région, etc. Et là, il faut que nos amis agriculteurs fassent du marketing.
Mais il faut que les grands distributeurs, etc., soient prêts à jouer le jeu avec eux. Justement, Nadia Vidal, vous avez entendu Robert Lafont. Il y a bio et bio. Excusez-moi, mais vous, vos châtaignes, je suis convaincu qu'elles sont excellentes et qu'elles sont bio. Par contre, la banane qui vient du Guatemala ou du Costa Rica qui est marquée bio, elle est peut-être marquée bio, mais c'est juste une étiquette dessus, non ?
Alors, est-ce qu'on peut dire ça réellement ? On n'est pas allé jusqu'au Guatemala, voir éventuellement s'il y avait
la fraise espagnole.
Non, mais on pourrait citer tous nos voisins européens dans ces conditions. Moi, je pense que néanmoins, vous avez du bio, vous avez du non-bio. Alors après, du local, du circuit court. Moi, je fais du circuit court. Donc, c'est plus facile de parler avec le consommateur. Le consommateur comprend. Quand vous parlez donc des contrôles où il y a... On pourrait vraisemblablement penser que ça laisse à penser qu'il y aurait de la fraude. Quand vous avez des écarts, un écart mineur en bio, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite astérix sur l'étiquetage qui n'est pas à la bonne place. C'est pas un problème du produit, bien souvent. C'est vraiment des choses minimes, mais ça fait un écart. C'est un écart qu'on doit corriger.
Oui, voilà. C'est pas une chose grave.
Mais ce ne sont pas des choses graves.
Vous les vendez voilà. Où, justement, vos châtaignes, vous les vendez où, vos châtaignes?
Bon, alors moi, je les vends, moi, je fais de la transformation, donc je fais des confitures de châtaignes.
Ah, directement.
Et de la crème.
Voilà. Et après, c'est vendu dans des magasins locaux ou...
Voilà.
Vous
alors,
vendez nous, par Internet?
Pas encore.
Oui, c'est non, une bonne idée.
Encore,
oui.
Voilà.
Mais il faut faire l'internet bio, bien par évidemment.
Bio. Non, on les vendait dans un magasin de producteurs aussi.
C'est bien.
Jérôme Bissière, vous faites de l'agriculture raisonnée. C'est quoi la différence par rapport au bio? Vous allez être en agriculture HVE. C'est quoi l'agriculture HVE par rapport au bio?
Alors la différence, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'agriculture bio, elle est sur des moyens, et alors que l'agriculture HVE, elle est sur des résultats. Voilà. Donc nous, on le mode HVE, c'est sur des résultats sur la biodiversité, sur la fertilisation, sur la phytosanitaire. Et c'est ce qu'est en train de vouloir mettre en place le gouvernement, d'ailleurs sur un colloque qu'il y avait mercredi dernier au ministère.
D'accord. Voilà. Vous êtes
après,
d'accord.
Pour oui. revenir sur la culture bio au niveau de l'étranger, nous on est persuadé que on est sûr que sur des marchés internationaux sur la noisette, tous les marchés bio sur la noisette arrivent d'Italie ou de Turquie. Pour la traçabilité, c'est très compliqué. Oui. En Turquie, il y a 1 million de producteurs qui font de 5 kilos chacun. Donc, comment contrôler la traçabilité et tout
Vous
ce
êtes
qui...
plus contrôlé que les autres en France ou pas?
Je pense qu'on est plus contrôlé que les autres en France. Ça, c'est, je pense que c'est sûr.
Le sujet fait réagir au 0826-300-300. Nous avons Erwan qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Erwan.
Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
Voilà, bienvenue sur Sud Radio.
Merci beaucoup. Voilà, je vous appelle parce que moi je suis enseignant voilà, sur Bordeaux. Et je suis un peu interrogatif concernant le message que vous voulez faire passer auprès des auditeurs à une heure de grande
écoute. Alors, je vous explique, le problème de l'émission, c'est que j'aime bien toujours être un petit peu provoque et donner la bien parole sûr. Aux gens qui pensent le contraire.
Je comprends tout à fait, mais il faut savoir que notamment les jeunes auditeurs n'ont pas le recul nécessaire, justement, par rapport à un message comme celui-ci, qu'ils vont prendre tout cru. Et derrière, effectivement, le message, à mon avis, que l'on peut faire passer, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais au niveau de la pédagogie, si vous voulez, quand on sait que la terre est de plus en plus polluée, que les insectes effectivement disparaissent à grande échelle, qu'on nous dit que le bio c'est bidon, effectivement il doit avoir effectivement des filiales qui ne sont pas, je veux dire, totalement contrôlées et totalement bio, mais derrière, si vous voulez, il faut qu'il y ait un mouvement de fond, c'est changer de paradigme, à savoir effectivement donner plus de place effectivement à la nature, la manière de défendre effectivement la nature, moins artificielle, moins chimique, et je crois que notamment les radios doivent appuyer, Erwan, si vous voulez, ce changement de paradigme.
Erwan, c'est pour ça qu'on donne la parole ce soir aux agriculteurs bio, HVE, etc. Mais vous êtes enseignant, vos élèves, vous êtes enseignant en quelle classe?
Je suis enseignant en 6e, 5e, et d'ailleurs je promeux chaque année une journée du développement durable. Et ce sont des thématiques que l'on aborde parce qu'elles sont incluses dans le programme notamment de 5e, dans le développement durable. Et je trouve qu'il n'y a pas assez justement de choses qui sont faites au niveau de l'éducation nationale en termes de messages, de pédagogie liées à la défense de l'environnement. Et je me bats au quotidien effectivement pour faire passer ce message-là. Alors effectivement, je n'ai pas les capacités techniques que peuvent avoir effectivement vos invités ici en termes de bio, mais je crois que c'est un message effectivement. Quand aujourd'hui, par exemple, je sais pas, bon, ça c'est un autre débat, mais le changement climatique, il faisait 26 à Bordeaux, et je crois que voilà, ce sont des thématiques que l'on doit tous soutenir et qui doivent faire part d'un consensus vraiment, et notamment au niveau des radios, et notamment au niveau des messages que l'on peut apporter à la jeunesse.
Merci beaucoup Erwan qui fait passer le message du bio à ses élèves. Xavier de Namur, restaurateur, veut réagir.
Oui, moi je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec le corps enseignant
Erwan.
Je rappelle, tu sais, j'ai écrit un livre, Erwan, qui s'appelle « Si on se mettait enfin à table ».
Il est sorti il y a 3 ans.
Il y a 3 ans. Et dedans, je fais des propositions. Donc, j'ai pas attendu le grand débat, j'ai pas attendu les gilets jaunes, etc., pour faire des propositions. Et dedans, j'avais écrit, j'instaurais que dans l'éducation nationale, et cela dès la maternelle, un programme pédagogique alimentation santé, avec une création de 10 000 postes. C'est-à-dire qu'on doit donner des moyens à l'éducation nationale de bien payer des gens et de faire que ce soit carrément dans les programmes, que ce soit même à la cantine, ce soit un moment où on leur dit exactement qu'est-ce qu'ils mangent, c'est quoi l'impact de leur alimentation, c'est quoi l'impact de ce qu'ils font de leur vie sur l'environnement. Et donc, on a cette nécessité, et je pense que le gouvernement avait la possibilité de le faire, la semaine dernière, dans la loi alimentation. Ils ne l'ont pas mis parce qu'ils considèrent que c'est un truc de l'éducation nationale et pas du tout dans ce cadre-là, alors que moi, je pense que ça doit être dedans.
Vous êtes bien sur Sud Radio. Il est 19h26. Où en est-on, mon cher Philippe Rossi? Est-ce que le bio est en train de nous ringardiser?
Non, mais en tout cas, le bio est votre ami, puisque beaucoup, beaucoup d'auditeurs sont d'accord avec vous. C'est un petit peu baissé. On passe de 60 à 59% d'auditeurs qui sont d'accord et qui disent le bio, c'est bidon. 0826 300 300 et les votes sur le compte Twitter de Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous.
Retour des vraies voix, seul contre tous, depuis le stand de Hircalim Occitanie, Hall 1, stand C29, où il y a une banda qui vient à côté de nous. Ça fleure bon le sud-ouest. Et je l'affirme, oui, seul contre tous, le bio, c'est bidon. Vous avez entendu Michel Strebler, vous êtes responsable des semences bio au GNI Serwan, qui parlait du bio. Lui, il est enseignant, il sensibilise ses élèves. Est-ce que pour vous, c'est important? Est-ce que les agriculteurs, comme vous vendez des semences, sont sensibilisés au bio?
Alors, j'irai même plus loin que ça, parce que effectivement, je m'occupe au sein du GNIS des semences dans leur globalité, et on s'aperçoit que ce qui manque, c'est le sens du vivant. C'est même et on mène des actions, nous, qui s'appelle le jardinage à l'école, par exemple, qui font découvrir le monde du vivant. Et je pense que les enfants comprendront mieux ce qu'est le bio, par exemple, quand ils comprennent ce que c'est qu'une plante, comment ça pousse, de quoi ça a besoin pour pousser et les différentes façons de pousser. Donc ça revient très très loin. Et les enseignants ne connaissent pas, ils n'ont plus de racines agricoles, je dirais.
Alors, je te rejoins complètement, parce que moi je pense qu'on doit avoir, et c'est tout le programme qu'on a lancé avec la région Occitanie hier et avant-hier et hier, avec j'en ai parlé avec la région Franche-Comté, et je vais même, ça va être même, je te dis, trans-régional et même trans-pays, puisque je vais aller demain avec le président de la région Val d'Aoste. On va créer, moi l'idée pour moi, c'est de créer dans chaque région des centres, ce qu'on appelle agroculturels, c'est non pas dans les villes mais dans les campagnes, des endroits où on va faire du lien entre le paysan, le monde paysan, le monde de la restauration, le monde de l'industrie agroalimentaire, les gens, pour qu'ils comprennent, que ce soit pédagogique dans la cuisine, pédagogique dans les jardins, qu'on ait des animaux, etc. Et que c'est tous ces gens-là, dans des centres, des vrais centres agroculturels, il y a aussi de la musique, on entend la musique, des expos photos, du cinéma, enfin, que tout le monde comprenne à nouveau comment on travaille ensemble, qu'est-ce que c'est les paysans. Et là, à ce moment-là, on pourra vraiment ramener les gens à bien manger, les paysans à faire autrement. C'est un vrai programme.
Oui, Robert Laffont. Oui, je crois qu'il y a... Xavier Damur a totalement raison. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de travailler de manière trop indépendante. Il faut que les producteurs locaux arrivent quand même à créer des filières entre eux, du partenariat. Je pense aux restaurateurs, par exemple, les grands restaurants. Chaque fois que vous avez un chef étoilé, par exemple, on ne va pas parler de Georges Blanc dans la Bresse, mais en Occitanie, bon, il y a un village qui a complètement qui est reparti parce qu'il y a un 2 étoiles, je ne sais plus le nom, je crois que c'est Fonjoukouz, près de dans les Corbières, je ne sais plus le nom, mais ils ont créé 48 emplois et il y a toute une filière de qualité. Ils sont une vitrine pour ces produits agroalimentaires de qualité. Il faut absolument donc avoir de la distribution locale. Il faut aussi un label bio. Ça, c'est la question que vous posiez, Philippe David. Mais je crois que tout le monde s'appelle bio aujourd'hui. Je crois que le consommateur a besoin d'avoir un label bio extrêmement crédible pour que les producteurs qui jouent cette carte sérieusement soient adoubés dans leur vente. Parce que c'est pas normal aujourd'hui qu'on mélange les différentes appellations. Donc le bio, c'est l'avenir de l'agriculture française. Et pour répondre à votre question,
Michel Strebler,
il y a aussi, vous avez le boom des potagers aujourd'hui en France. Il y a plein de gens qui sont en train de revenir à une culture potagère, même autour des villes. Donc vous avez une école formidable sur le terrain, même des urbains qui se mettent, si vous voulez, à l'agriculture biologique qui est le potager. Donc c'est un formidable atout aussi pour nos agriculteurs, parce qu'ils vont être encouragés par ces gens qui sont sensibilisés au sujet.
Nadia Vidal, avant de vous donner la parole, je vais lire 2 commentaires sur Twitter qui vont vous faire plaisir, vous qui êtes productrice de châtaignes bio au collet de Dez dans le 48,
à la limite du Gard,
la Lozère.
Lozère,
on a Nelly, une autre dame, femme, qui nous dit « Lorsqu'on mange des légumes et fruits bio, il est facile de constater qu'ils ont plus de goût, moins bons certes, mais oui, ils sont meilleurs. » Et un autre qui nous dit « Pas d'accord, parfum de scandale. » Il suffit de goûter une carotte bio et une non bio, les yeux fermés. Attention, je parle du bio français, de nos producteurs locaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quand on goûte une châtaigne bio de chez Nadia Vidal, est-ce qu'on sent la différence par rapport à une châtaigne pas bio?
Forcément. Forcément. Non, mais alors là, attendez, moi je suis désolé, il y a un goût qui est différent. Voilà. Mais je voulais revenir sur les propos de monsieur qui Lafond. Dit
Robert Lafond.
De monsieur Lafond, parce que les agriculteurs, enfin je parle pour mon département et pour donc ma région, les agriculteurs n'ont pas attendu qu'on leur dise quoi faire pour se grouper et pour vendre.
C'est bien.
Entre eux.
Bravo.
Donc on a des magasins de producteurs où vous allez trouver du bio. Le consommateur, il a quand même...
Vous n'avez pas encore votre site internet, hein, par contre.
Ah oui, mais ça, le site internet, ce n'est
Philippe n'est David plus... était prêt à vous acheter votre voilà. crème de marron.
Mais la crème de marron, il va la trouver sur place, sur notre stand. Donc, j'en finis pour dire que quand même, il y a dans ce pays des agriculteurs qui travaillent très bien, qui font du bio très bien. Et le consommateur, il a quand même une garantie par rapport à un label qui est sur une étiquette. Et ça, c'est très important. Parce que tout le monde vous dira qu'ils sont bio, mais si vous n'avez pas un produit qui est certifié et contrôlé, on ne peut pas dire ça.
Donc vous n'avez pas attendu qu'on vous donne des conseils.
Exactement.
La châtaigne Cévenol est en train de s'organiser.
Que ce soit la châtaigne ou la pomme, la châtaigne,
Vidal au col de...
Et au col de Dèze, elle est en train de s'organiser avec plusieurs départements et pour avoir une AOP.
Vivement un site internet.
Jérôme Bissière, il y a vraiment, vous avez entendu les commentaires de Nelly et Parfum de Scandale, il y a vraiment un écart de goût entre un produit, allez on va dire de bio, ou un produit comme vous d'agriculture raisonnée par rapport à un produit d'agriculture industrielle, intensive, etc.
Alors, l'agriculture française, je ne pense pas que l'avenir c'est le bio. Alors il y a certes une partie qui vont faire de l'agriculture bio, mais pour attaquer les marchés internationaux, je ne sais pas comment avec du bio on sera compétitif au niveau mondial. Hein. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Voilà.
Sur l'eau de gamme.
Oui, sur du haut de gamme, mais est-ce que les gens sont prêts à mettre les moyens? Moi, je ne crois pas. Hein. Au niveau mondial, je ne crois pas. Hein. Déjà, en France, c'est compliqué. Alors, je vois pas comment. Ce qui est sûr, c'est que l'agriculture française a été notée depuis 3 ans l'agriculture la plus durable. C'est grâce à l'agriculture raisonnée. Il y a eu un commentaire là-dessus.
Vous savez qu'il y a aussi il y a quelque chose qu'on peut dire, Philippe. C'est la France est le premier pays touristique du monde. 90 millions de touristes dans le monde entier qui viennent en France. Oui. Le problème, c'est qu'ils ne restent pas suffisamment longtemps. Ils viennent à Roissy, ils repartent. Il faut qu'ils se viennent dans nos régions et qu'ils aient des produits locaux bien valorisés, comme le disait Xavier Namur. Il faut qu'on s'organise encore plus.
Je suis d'accord, mais vous avez des produits locaux qui sont faits en agriculture raisonnée ou sous label HVE qui va arriver le niveau 3. Il n'y a aucun problème de goût, de santé, ouais, de résidus et tout ça. Ça se fait très bien. Il n'y a pas que le bio dans la vie. Quoi.
Xavier de Namur, une carotte bio, vous sentez la différence de goût par rapport à une carotte intensive?
Alors, sur une carotte, ça va être peut-être... Enfin, il faut voir comment elle est cultivée et tout. Le problème du bio, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le problème de la maturité. C'est-à-dire que si vous avez un produit même d'agriculture raisonnée qui arrive à maturité, qui n'est pas forcément standardisé, aura un très bon goût, c'est le problème. Après, le bio, effectivement, sur des nutriments, aura peut-être un meilleur goût si la maturité, parce que si tu prends du bio, tu vas acheter, alors effectivement, même en France, en serre, chauffé ou en Espagne et tout, qui n'est pas arrivé à maturité, il n'aura pas le goût du terroir. C'est pas de faire.
Il n'y a pas que le goût, il y a aussi les qualités nutritives.
Oui, alors, c'est ce que je disais, les qualités nutritives. Ouais. Après, moi, la question qu'on peut se poser, c'est que moi, je connais la noisette, donc la noisette, effectivement, on peut se dire que. Quand, pour l'instant, c'est quand même dans le Lot-et-Garonne, au pied des noisetiers. On voit bien qu'ils désherbent grave avec le glyphosate. Hein, c'est quand même très désherbé. Non, mais je le dis, je le vois moi tous les jours. Donc je vois bien que c'est très désherbé. Maintenant, est-ce que c'est ce produit qui rentre? Alors, il rentre dans la terre et d'autres produits. Est-ce que c'est bon pour la nature? Alors, est-ce que demain, avec votre nouvelle certification, Jérôme, est-ce que demain, avec la nouvelle certification, vous allez retirer, par exemple, ce désherbant, ce désherbant et pas le remplacer par un autre désherbant? Parce que moi, après tout, qu'on soit en agriculture raisonnée ou si elle est vraiment raisonnable, j'y vois pas d'inconvénient. Moi, je travaille d'ailleurs une partie de mes producteurs en poulet, etc., sont ce qu'on appelle du poulet de 120 jours. Ils sont pas en bio, mais demain, ils disent, ouais, si on n'a pas de glyphosate, on est dans la mer, c'est fini. Qu'est-ce que vous faites, vous, en noisetier? Parce que vous, c'est souvent les noisetiers. Moi, quand je passe à côté des champs, c'est traité.
Ils sont traités désherbés au glyphosate, je dis.
D'accord.
Alors, le problème de la noisette, alors pour l'instant, on n'a pas trop de solutions. On est en train de travailler. On a un bureau d'expérimental qui s'appelle la NPN. On travaille sur ça depuis longtemps. Et sur le ravageur, je parle autre chose, mais sur le ravageur du noisetier, ça fait déjà 5-6 ans qu'on travaille à l'université de Versailles pour trouver un biocontrôle, genre une confusion sexuelle, pour trouver ça. Sauf qu'il faut des années pour mettre en place ce système-là.
Et donc, juste une seconde, Jérôme. Alors, je comprends, j'ai l'impression que pour l'instant, vous n'avez pas trouvé les solutions pour sortir du glyphosate.
Il n'y a pas de problème.
Il y a des solutions qui sont en gestation. Par exemple, je sais qu'il y a les pleurotes, vous savez, les champignons, les pleurotes. Il y a une boîte, il y a une jeune start-up aujourd'hui qui est en train de transformer ces champignons pour en faire des engrais naturels. Donc il y a des espoirs. Oui, le glyphosate n'est pas. Il va y avoir des alternatives.
On est en train d'essayer des robots qui vont couper les rejets au pied des arbres et même désherber, qui travaillent tout seuls et qui sont automatisés.
Oui, puis le noisetier entre le glyphosate qui est par terre et la noisette qui est en haut, c'est quand même.
Michel Strebler,
c'est des faibles doses.
On peut rêver d'un monde sans glyphosate parce que c'est reconnu comme cancérogène.
Alors, c'était pas là-dessus que je voulais intervenir. C'était sur le fait que c'est toujours gênant d'opposer. Oui, mais c'est toujours difficile d'opposer les agricultures aussi. Parce que quand même, effectivement, le bio, pour l'instant, n'est pas capable d'en faire sur la totalité du territoire. Ce qui se passe en bio, et moi je crois beaucoup en la science et en la technique, hein, et les bio nous font progresser au niveau technique. Hein. Tout à l'heure, on parlait de résistance à des maladies. On sait créer des variétés résistantes aux maladies pour le bio, mais aussi pour le HVE, aussi pour l'agriculture conventionnelle. Et donc, on a un élément de progression continue sur ce plan-là. Ensuite, l'enjeu, il y a un enjeu économique qu'il ne faut pas négliger en bio, c'est que si on ne fait rien en France, les produits, parce que les consommateurs ont beaucoup critiqué, dire que c'est du bidon, ils mangent de plus en plus de bio. Et d'où vient ce bio ? Eh bien, il vient d'ailleurs. Et en semence, on a le même problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à produire en France la consommation bio, les semences bio. C'est ça l'enjeu.
Nadia Vidal, productrice de châtaigne, veut réagir. Bio.
Oui, alors, je veux réagir. C'est bien dans le micro.
Cévenol.
Voilà, alors, sur le territoire Cévenol réagit.
Ouais, très beau territoire.
Je ne veux pas qu'on m'oppose, moi, en tant qu'agriculteur, à mon collègue qui fait de la noisette et qui est en HVE. On a besoin de toutes les agricultures et on ne doit pas les opposer. Bon, deuxièmement, l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui est très technique. Donc, les agriculteurs qui font de l'agriculture biologique, ils le font parce qu'ils en ont envie et qu'ils ont les moyens techniques à leur disposition. D'autre part, par rapport à tous ces ravageurs qui embêtent la noisette, mais qui embêtent aussi le châtaignier, on aurait besoin d'un peu plus de recherche par rapport à l'agriculture biologique. À l'heure actuelle, c'est un manque dans la profession agricole.
On avait Brune Poirson, la ministre, tout à l'heure. Elle avait un t-shirt de l'INRA. Ce serait bien qu'elle dise à l'INRA de mettre le paquet pour la recherche. Xavier de Namur.
Alors oui, effectivement, mais je pense qu'ils essayent, ils mettent le paquet. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'oppose pas du tout les agriculteurs entre eux. Et je pense d'ailleurs, je connais beaucoup d'agriculteurs, d'ailleurs même en Lot-et-Garonne, qui sont des éleveurs ou du fond du maraîchage de la grande céréale, qui sont dans des syndicats qui ne sont pas la Confédération, mais qui sont la jeunesse paysanne, aux jeunes agriculteurs. Et donc, ils veulent aller vers autre chose. Ils sentent que le marché va vers un autre marché, vers plus de qualité, vers plus de transparence, vers plus de bio, mais ils ne sont pas forcément accompagnés. Alors, on a la PAC, et à travers la PAC, ce sont des milliards. Et le problème, c'est que, par exemple, ils n'ont pas touché dans leur conversion ou ceux que, pour le maintien, on veut retirer ces aides ou à travers des dispositifs, j'en appelle à Macron, etc., sur le dispositif comme le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, les agriculteurs sont des entreprises comme les autres et souvent ont touché des petites miettes, 2-3 000 euros et tout. Ça n'était pas suffisant. Si on voulait aider l'agriculture à changer, à aller vers une transition écologique, il fallait mettre le paquet à travers les dispositifs d'aide aux entreprises, les plafonner, les limiter, les conditionner. Et là, les paysans auraient été encore plus parce qu'ils auraient été aidés. Ils demandent juste. Souvent, ils disent on n'est pas accompagné, on n'a pas les moyens. Parce que avoir une bécane qui desserbe mécaniquement ou un robot, ça peut coûter 20-30 000 euros. Donc le paysan, il n'a pas. Si tu as touché 3 000 euros de crédit d'impôt, compétitivité, emploi, tu ne peux rien faire. Ça, c'est un vrai problème.
Robert Laffont.
Un truc qui coûte pas cher quand même, il y a un truc qui coûte pas cher. Là, on a la concurrence terrible, mais c'est bon, c'est le salon d'agriculture, il y a de l'ambiance au salon. Il y a un truc quand même qui est simple, c'est la coopération, vous l'avez dit tout à l'heure, la coopération entre les petits producteurs locaux et les petites épiceries de quartier, les petites épiceries locaux, parce que combien de fois vous allez dans des villages, vous allez dans des bourgades, vous ne trouvez pas des produits locaux. Et là, ça c'est facile à mettre en place, c'est un peu de boulot, il faut s'organiser. Et là, il y a une solidarité qui doit s'ancrer. Il faut faire des stands qui soient extrêmement bien achalandés, qui soient bien présentés et qui soient visibles. Avec, par exemple, quand on va dans les Cévennes, il faut qu'on puisse trouver votre crème de châtaigne bien en avant. Quand on va dans le Lot-et-Garonne, vos noisettes, moi je serais content si je vais dans le Lot-et-Garonne de pouvoir avoir votre crème de noisettes ou des noisettes directement, mais bien présenter les produits Lot-et-Garonne. Et ça, on ne le trouve pas assez dans les épiceries je dirais, locale. Donc il y a un travail d'organisation aussi pour les agriculteurs. Ils sont déjà, ils ont beaucoup de boulot, mais...
Juste, Robert, juste te dis quand même, c'est que moi, je vois, il y a quand même pas mal de ce qu'on appelle, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais des maisons d'agriculteurs, enfin des coopératives dans lesquelles les agriculteurs se recoupent pour vendre. Moi, j'en ai, il y en a une à Agen, il y en a un peu partout, et je vois à Bordeaux, etc. Donc c'est en train de se mettre en
place. Il faut s'organiser, ouais.
Le circuit court, moi, ça fait à peu près, tu sais,
circuit court, oui, c'est l'avenir.
On se moquait de moi il y a 20, 25, 30 ans. Aujourd'hui, parce que moi, j'achète tout en beaucoup en circuit court.
Je te coupe, mais j'étais en Amboise la semaine dernière. Amboise, une ville touristique par excellence, le château, etc. Ouais. Léonard de Vinci. Et ben, j'ai discuté. Il y a une boutique dans Amboise qui s'appelle Galant. Je donne son nom. Et ben, c'est épicerie de terroir. Et ben, Galant à Amboise, ils sont aussi fermiers charcutiers. Donc, ils ont fait une épicerie de terroir. Ils mettent leurs produits charcutiers et en plus des produits de terroir made in France.
Alors,
ben, ça, c'est l'avenir.
Je vais te dire, moi, je travaille. Je vais te donner encore un exemple encore plus flagrant, si tu peux dire. Moi, je travaille depuis pas mal d'années avec une ferme à Saint-Aubin. J'en parlais tout à l'heure avec Jérôme. À Saint-Aubin, c'est la famille
c'est
Potzer.
C'est
dans le nord du département du Lot-et-Garonne. Ouais. Ils sont en bio depuis plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu passer, eux, à l'agriculture.
Résistant.
Ils étaient pas résistants, mais ils ont dit, dans les années 50-60, ils ont considéré que c'était pas bon. Et donc, ils font sur la ferme, il y a 10 salariés, il y a 100 hectares, ils font du pain, de la charcuterie, des pâtisseries, du fromage, etc. Et ça marche.
Donc,
ça veut dire et que les gens viennent, quand tu as un truc qui s'appelle ferme en ferme, ou même toute l'année, les gens vont à la ferme, ils vendent sur les marchés.
C'est formidable.
Et l'avenir, c'est le marché de plein air, c'est de vendre de ferme en ferme, c'est de revenir les gens dans les fermes.
Vous êtes bien sur Sud Radio, on doit faire la pause. Il est 19h45. Où en est-on, mon cher Philippe Rossi, sur Twitter?
Et sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours 58% Philippe David, 58% des auditeurs qui sont d'accord pour qui le bio, c'est bidon. Dernière partie de l'émission, le compte Twitter de Sud Radio, les votes pouvaient inverser la tendance, c'est le 0826 300 300. Nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix, Philippe David, seul contre tous.
Retour des vraies voix, seul contre tous, depuis le Salon de l'Agriculture sur le stand Ircalim Occitanie, Hall 1, stand C29, et je l'affirme, seul contre tous, mais le bio c'est bidon. Avec nous pour en débattre, Jérôme Bissière, producteur de pruneaux, noix et noisettes à Agmé, dans le Lot-et-Garonne, en agriculture raisonnée. On nous écoute là-bas sur 102.9. Xavier Denamur, restaurateur à Paris. Mais lui, il est de l'autre côté de la Haute-Garonne. Et là, on nous écoute sur 102.3. Michel Strebler, responsable des semences bio GNIS, le groupement national interprofessionnel des semences. Nadia Vidal, productrice de châtaignes bio au Collet de Dèze. Et là, on nous écoute sur 95. Et comme tous les mercredis, Robert Laffont, patron du groupe Laffont Presse Entreprendre. Jérôme Bissière voulait réagir à ce que disait Xavier Denamur.
Oui, je voulais réagir... Certes, c'est une solution pour une petite minorité de producteurs de faire de la vente directe, du circuit court et tout ça. Mais moi, je vois des exemples autour de chez nous. On a plusieurs éleveurs de canards qui font du foie gras. Il y en a 2-3 sur le canton. Je crois que c'est la grande majorité. Si après, on en construit d'autres exploitations comme ça, leur marché va être vite écroulé. Donc l'agriculture, nous, malheureusement, il y a d'autres producteurs qui doivent faire de l'agriculture de masse.
Ils peuvent aussi s'organiser, créer un label commun, avoir des commerciaux pour aller de draguer.
Oui, mais ça s'appelle la coopération. C'est déjà fait dans plein de milieux et dans plein d'autres coopératives.
Non, oui, mais
je ne suis pas spécialisé du palmipède. Mais...
Non, mais vous avez un avenir quand même pour des produits de qualité locaux. Il faut pas... Je ne peux pas laisser dire que c'est limité.
Il
n'y
a aucun problème.
Il
y a... Sur Unicoque, on le fait. Sur France Prune, on le fait aussi.
De façon plus générale, je crois que, M. Laffont, il ne faut pas multiplier les labels. Pour fréquenter l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, les Français ne se retrouvent plus dans les labels. Il y a trop de labels. Et le label bio fait partie de ces labels qui est reconnu. Donc il faut capitaliser dessus.
Oui.
Et effectivement, dire le bio c'est du bidon, je pense que personne n'y croit en fait.
C'est seul contre tous.
Oui, les seuls contre tous, tout à fait. Même s'il y a 60%
des
auditeurs qui baissent. Mais en fait, tout le monde y croit. Et c'est pas en essayant de rajouter des qualités. Là. Par exemple, le fait de dire je rajoute du local sur le bio, c'est pas une solution non plus. Si on veut que la majorité des gens bénéficient du bio, si on veut que 20% des collectivités l'utilisent et le donnent aux enfants, il va falloir qu'on passe à l'échelle supérieure. Et il faut être lucide là-dessus.
Non, n'empêche pas l'autre. Vous pouvez avoir une démarche bio.
Je répondais à votre question juste.
Vous pouvez avoir une démarche globale avec
mais
des producteurs bio.
On est bien
et
on
aussi
bien
des
là-dessus.
Producteurs locaux
on est bien
qui se développent et qui sont très demandés par les consommateurs.
Nous, juste pour parler sur les semences, arriver à produire ce dont on a besoin, effectivement, heureusement qu'il y a des grands groupes qui s'y mettent. On a commencé par des petits qui sont...
Syngenta, etc.
Ils n'y sont pas encore. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits de petits qui sont développés. Mais comme ça, c'est, ça va être obligatoire, les gens qui ont des bonnes variétés vont s'y mettre.
Nadia Vidal veut réagir.
Tout le monde y gagnera.
Mais oui, parce que là, c'est,
la châtaigne.
Là, c'est pareil, on oppose aussi les différentes formes de commercialisation et de production. Il ne faut pas opposer les circuits longs et les circuits courts. Tout le monde ne peut pas faire du circuit court, comme tout le monde ne peut pas faire du circuit long à très grande échelle. La majorité donc, des producteurs qui sont en circuit court, même si maintenant c'est la grande mode, et c'est en vogue complètement, sur un marché de plein vent, vous allez trouver des agriculteurs en bio, des agriculteurs locaux, et si vous n'avez pas de bio, vous allez acheter chez l'agriculteur du coin parce que vous le connaissez. Je veux dire, voilà, je pense qu'on oppose trop dans notre métier tous ces circuits et toutes ces agricultures. C'est dommageable pour la profession, me semble-t-il.
Jérôme Bissière.
Oui, du coup, j'ai participé à un colloque pour mettre en place le nouveau logo, alors le logo bio, maintenant il va y avoir le logo HVE, qu'on veut mettre en place, et d'ailleurs les agro-mousquetaires vont commencer à le mettre en place dès le mois d'avril.
Qui veut dire quoi ?
HVE, c'est haute valeur environnementale.
Total.
Voilà. Donc, d'ailleurs,
je l'avais dit dans mon intro.
Oui, c'est loin. Hein.
Ouais, le discours de monsieur, le discours de notre ministre d'Agriculture, Didier Guillaume, c'est l'objectif de l'État, généraux de l'alimentation. Lui, il voudrait 30% de bio, 30% d'HVE et 30% de niveau 2, de certification niveau 2.
Alors, c'est quoi niveau 2 ?
Niveau 2, c'est comme le bio, ce n'est que des moyennes, ce n'ont pas des résultats. Ce ne sont pas des résultats.
D'accord.
Voilà. Donc actuellement, pour l'instant, en HVE, il n'y a que 1500 exploitations en France qui sont certifiées, mais tout le monde est prêt à accroître ça, et on va lancer ça très prochainement, et vous allez entendre parler de nous sur ce domaine-là.
Voilà. Xavier Demure voulait réagir.
Oui, alors moi, ce que je pense, je ne m'oppose pas au circuit, mais c'est pas au circuit de distribution. Après, que la grande distribution se mette aujourd'hui à vouloir faire du bio, à vouloir faire autre chose, ou mettre en valeur un peu les paysans, c'est une bonne chose, mais en réalité, ce qui se passe, moi, ce qui me gêne derrière tout ça, c'est le mensonge sur le bio qui est trop transformé. Tout à l'heure, je te parlais du bio bidon.
Oui.
C'est-à-dire que dans les cantines, je parlais tout à l'heure, et j'en ai parlé avec Didier Guillaume hier, j'ai essayé de lui dire, en fait, ils ont refusé une loi sur la transparence de ce qu'on sert à nos enfants ou dans les restaurants. C'est-à-dire qu'on met le label bio, et là, tu as du vrai bio bidon derrière. C'est-à-dire que c'est offert à nos enfants. Je donnais l'exemple de la cantine dans le 2e arrondissement qui est fait par la Sodexo, et c'est des produits ultra transformés, donc c'est pas génial. Le bio, moi, ce que je dis, c'est que quand tu l'achètes au supermarché ou que tu l'achètes sur le marché ou ailleurs, c'est quand tu le cuisines, c'est quand il est du frais. Parce que ton bio, si tu achètes ton truc qui vient de Chine avec du saumon bio et tout, avec du saumon bio de Chine, bah, il est hyper salé, il est pas bon. Donc c'est nul, ça. C'est ça ce que je veux dire. Le circuit long, c'est quand il est ultra transformé. Donc encore une fois, il faut revenir à l'essentiel. Il faut que les gens rachètent des produits bruts, frais, et là, ils seront en bonne santé. Tu achètes une soupe bio. Ta soupe, tiens, il y a un produit, chez Danival. Oui, je sais pas combien de sel ils mettent, etc. Mais en fait, tu as le produit, mais tu as beaucoup de flotte. Et Danival, derrière, tiens, on peut se poser la question, qui sont les actionnaires ? Tiens, bah, derrière, je me demande pas s'il y aurait peut-être pas un peu de Monsanto et tout. Faudrait leur poser la question. Mais du coup, tu vois bien que même les mecs derrière, c'est bizarre, tous ces industriels. Et le seul truc qu'on peut faire, c'est de demander aux paysans de nous vendre directement à la GD, de vendre. Pourquoi pas chez les grands distributeurs comme Métro, etc. Grande distribution, chez Métro pour les restaurateurs. D'ailleurs, chez Métro, j'y étais hier. Et tu vois, maintenant, ils mettent petit à petit un rayon bio où ils vont mettre. Ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là où tu mets en avant le paysan et tout, mais ils viennent. Donc ça veut dire qu'ils voient bien que même dans des grands distributeurs, ils voient bien qu'il y a un changement de paradigme qui est énorme.
Mais je suis d'accord, mais je pense quand même, pour synthétiser, c'est qu'on a quand même la chance en France d'avoir, et vous êtes tous là, des formidables producteurs de produits de qualité. On a une diversité, j'en parlais tout à l'heure avec notre ami des semences. On a une formidable agriculture, très diversifiée, avec des petits exploitants souvent qui font un travail incroyable. Et il faut absolument qu'on arrive à valoriser et avoir une lisibilité. Je reviens parce que dans les magasins, je reviens en province, il n'y a pas assez de produits locaux. Ça, c'est une demande qui va être de plus en plus forte pour des produits lisibles, des produits qui, on connaît le producteur. Et si possible bio, c'est encore mieux. Si on peut s'organiser aussi pour étendre un peu les zones de distribution, bah vous allez vendre plus, donc vous allez pouvoir avoir plus de moyens pour développer votre agriculture bio. Donc je veux dire, et n'oubliez pas non plus, la France est un pays touristique. Quand on va dans les provinces françaises, qu'on soit parisien ou des touristes étrangers, ou des urbains, tout simplement. On a envie de retrouver nos produits de terroir, on a de retrouver nos labels de terroir, on a envie de trouver la noisette du Lot-et-Garonne, on a envie de la châtaigne,
des Cévennes.
Robert, ça va nous changer de la châtaigne industrialisée.
Les semences de la Beauce, et chez
notre ami de Namur.
Lui, c'est
les restaurants parisiens.
Oui, bon. Sauf que moi, tu dis, t'as raison, il y a 90 millions de touristes par an. Sur les 90 millions de touristes, et j'en sais quelque chose, 80% peut-être de ces touristes mangent des produits, non pas du terroir, mais des produits industriels. Et on
changer.
Ne leur dit pas. Et moi, j'ai demandé, c'était la fameuse loi que je demandais depuis des années. On a fait le fait maison, mais jeudi dernier.
Très bonne idée.
Je ne suis pas là pour me faire des amis, ni au gouvernement, ni ailleurs. Jeudi dernier, il y avait un amendement qui était possible en disant on va faire passer des logos, le fait usine, il n'y a pas de problème, on a une industrie agroalimentaire, j'en dis toujours, qui est excellente peut-être. Moi, sauf que quand tu manges une terrine, d'ailleurs la ministre, d'ailleurs, quand j'ai voulu la faire manger la mousse au chocolat industrielle, elle n'a pas voulu la goûter. Et bien quand tu manges une terrine de poisson avec du E110, du E107, du E118, du E180, etc.,
mais c'est peut-être du E180 bio.
Peu importe, non il n'est pas bio. Mais quand on vend ça au restaurant en 10 ans, parce que c'est acheté en truc professionnel, quand on vend ça au restaurant 10 euros, et ben c'est, moi je trouve ça scandaleux. Et dès le moment le touriste, les Français, s'ils veulent retrouver de la confiance, et on a 35%
on a des producteurs qui développent là-dessus. T'as un yaourt, je te donne un exemple. La ferme des Peupliers.
Oui, mais il y a
un petit producteur de yaourt qui est aujourd'hui vendu dans des épiceries fines.
J'ai bien compris. Mais ça, je te parle des touristes,
Les touristes, ils ont les moyens.
Aujourd'hui,
ils sont prêts à payer.
Alors, je vais te dire.
Nous, on voit au niveau des noix sur les grandes surfaces, vous avez de la noix chilienne et de la noix française qui est à 1,50€ de kilo d'écart. Et bien, c'est la noix chilienne qui
est. Non, mais je suis d'accord, ça c'est en GD. En grande distribution,
Parce que GD, c'est la plus grande
endroit
où on vend des produits.
D'accord, Jérôme.
Désolé.
Je crois que vous n'avez pas bien compris. Quand tu es en grande distribution, tu achètes ce produit, tu vois les ingrédients que tu as dedans. Donc, tu achètes en confiance, ou en conscience en tout cas. Quand tu passes la porte d'une cantine, quand tu passes la porte d'un restaurant, tu n'en sais plus rien. Il faut changer ce truc-là. Et là, à ce moment-là, on relocalisera automatiquement notre alimentation par la transparence.
Merci beaucoup Xavier de Namur, restaurateur à Paris. Jérôme Bissière, producteur de pruneaux, noix et noisettes à Agmé en agriculture raisonnée et qui va passer en agriculture HVE. Michel Strebler, responsable des semences bio au GNIS, le groupement national interprofessionnel des semences. Robert Lafont comme d'habitude. Et Nadia Vidal, on termine par les dames, productrice de châtaignes bio au Collet de Thèse dans la Lozère. Où en est-on, mon cher Philippe Rossi? Pour moi, c'est la descente tada.
Oui, complètement. Score final sur Twitter, 57% de nos auditeurs qui sont d'accord avec vous et qui nous disent « Le bio, c'est bidon ».
Et de suite, le loft music de notre ami Yvan Cujous qui reçoit Trina McDean.